La CJE introduit pour la première fois la notion d'obligation parallèle du fournisseur dans les accords de distribution exclusive. Pour en comprendre les enjeux, nous recevons aujourd'hui Michel Ponsard, avocat associé du GGC Avocat. Michel Ponsard, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Alors avant de rentrer dans le détail de cette décision de la CJE, pouvez rappeler le contexte de cette décision ?
Avec plaisir. Donc le contexte, c'est la distribution exclusive, c'est-à-dire un accord par lequel un fournisseur décide de confier la revente de ses produits sur un territoire à un seul distributeur ou bien auprès d'une clientèle. Pourquoi ce type de distribution présente un intérêt ? C'est souvent le cas quand le fournisseur ne connaît pas, par exemple, le territoire et va utiliser ce prestataire pour augmenter ses ventes. C'est aussi un type d'accord un peu d'intérêt commun, si je puis dire, dans la mesure où le distributeur va être incité, évidemment, à être performant, à investir parce qu'il bénéficiera de cette exclusivité. Le contexte, c'est du fromage hollandais, le Beemster, qui était produit par une société hollandaise, Conno, qui avait choisi la société Beavers pour distribuer ce fromage en Belgique. Un revendeur qui s'appelait Albert Heijn, qui allait acheter aussi ce fromage auprès de Conno, le revendait en dehors de la Belgique pendant toute une période, ce qui ne posait évidemment aucune difficulté. Et puis tout à coup, ce revendeur a décidé de vendre en Belgique le fameux fromage, ce qui a généré un contentieux qui a donné lieu à cet arrêt de la Cour de justice.
Alors, on va aller plus en détail dans cette décision. Comment concrètement la CJE définit l'obligation parallèle du fournisseur ?
Voilà, parce que comme vous l'avez dit, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que ça se produit. Alors, il faut revenir un tout petit peu au texte applicable. Les textes, c'est un règlement d'exemption par catégorie qui s'applique aux accords verticaux et donc notamment aux accords de distribution. Ce texte est un texte directement applicable en droit français parce que c'est un règlement européen et il fixe une sorte de cadre qui permet aux entreprises de savoir si l'accord de distribution qu'elle conclut va poser des problèmes de concurrence ou non. Alors, c'était un ancien règlement qui datait de 2010, en fait, le règlement 330-2010, à l'époque des faits. Et ce règlement avait pour particularité, c'est pour ça que c'était intéressant, de ne pas parler du tout de l'obligation parallèle. Il définissait simplement le principe. Le principe, c'est qu'il ne faut pas restreindre les ventes d'un acheteur soit dans un territoire, soit auprès d'une clientèle, avec une dérogation à cette interdiction, sauf dans le cas où il y a un territoire exclusif. Donc là, on peut interdire les ventes actives d'un acheteur à condition qu'il veuille revendre activement vers un territoire exclusif. Donc ça, c'est le texte qui ne dit rien sur l'obligation parallèle.
Et comment on en est venu à cette obligation parallèle ?
Alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des lignes directrices, qui sont des textes moins forts. Hein. C'est un commentaire que fait la Commission sur un règlement. Et dans ce commentaire, elle expliquait quand même que, au paragraphe 51, que quand il y avait un territoire exclusif, ça supposait quand même que le fournisseur devait protéger le distributeur des ventes actives vers son territoire. Donc on avait un texte qui ne disait rien et des lignes directrices qui en parlaient. La Cour est donc saisie de ce problème, puisque Beavers, le distributeur exclusif, se plaint des ventes dans le territoire belge du revendeur, Albert Heijn. Et la Cour est amenée donc à analyser, alors elle fait une analyse en fonction du contexte, etc. Et elle affirme, là, pour la première fois avec force, sur la base du règlement, mais elle prend en compte quand même les lignes directrices également, que quand un fournisseur octroie une exclusivité territoriale, elle s'accompagne nécessairement de l'obligation pour le fournisseur de protéger le revendeur des ventes des autres revendeurs dans son territoire.
Il y a une forme de réciprocité, c'est ça ?
Il y a une forme de réciprocité. On ne peut pas donner une distribution exclusive si on ne garantit pas le distributeur exclusif qu'il ne sera pas attaqué dans son territoire. Pourquoi ? C'est un peu la logique de la distribution, c'est-à-dire que le distributeur va pouvoir investir, mais il le fera parce qu'il sait qu'il ne sera pas attaqué par d'autres revendeurs qui viendraient sur son territoire.
C'est ça le raisonnement de la Cour ?
C'est le raisonnement de la Cour. Alors, ce raisonnement de la Cour, il est intéressant parce que le caractère, ça va quand même très loin et on verra sur les conséquences. Ce caractère est basé sur le fait qu'on est sur une dérogation à la dérogation. C'est-à-dire que finalement, le principe, c'est celui que j'évoquais, c'est vous ne pouvez pas, en tant que fournisseur, empêcher un revendeur, le restreindre dans sa capacité de revendre les produits dans un territoire ou auprès d'une clientèle. Sauf s'il y a une exclusivité qui existe. Donc, L'existence de cette dérogation fait que la Cour dit donc qu'est-ce que ça veut. Il faut donc que cette exclusivité soit réelle, qu'elle produise D'accord. tous ses effets. Et pour qu'elle soit réelle, ça induit nécessairement qu'il y ait une protection du distributeur. Alors ça va même encore plus loin parce que dans cette dérogation à l'interdiction, la Cour nous dit comme c'est une. En fait, ce serait une pratique anticoncurrentielle que de restreindre la liberté du distributeur. Ça n'est admissible que s'il y a un territoire exclusif. Donc, il faut que cette dérogation soit parfaitement acquise et contrôlée.
Pourquoi ?
C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que le fournisseur dise « c'est une obligation pour moi, l'obligation parallèle, c'est mon problème, à moi de rapporter la preuve, si je ne la rapporte pas, quelque part, c'est un engagement unilatéral ». La Cour nous dit non, parce que c'est une dérogation à une pratique anticoncurrentielle, donc il faut que vous obteniez l'accord des revendeurs. Elle nous dit trois choses. Elle nous dit, un, il faut que vous, fournisseurs, vous ayez fait une invitation aux revendeurs de ne pas revendre dans le territoire exclusif. Deux, il faut que les revendeurs aient accepté. Cette acceptation, elle peut être tacite ou elle peut être expresse. Évidemment, c'est tout le côté tacite qui est problématique, mais là, il y a une jurisprudence assez établie. Et trois, en tant que fournisseur, vous devez aussi surveiller un peu les ventes, le non-respect éventuel de cette obligation parallèle. Et le dernier point très important de l'arrêt, c'est que la question se posait, et elle se posait dans l'arrêt, qui était de dire, en fait, il n'y a pas de vente. Avant que Albert Heijn vienne faire ses ventes en Belgique, il n'y avait pas de vente des revendeurs. Est-ce que ça ne suffit pas à montrer que tout le monde était d'accord pour ne pas venir vendre dans le territoire exclusif ?
Et la Cour dit quoi, alors ?
Et la Cour dit que ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas d'invitation claire de la part du fournisseur. Et donc, il faut vraiment démontrer, et ça sera au tribunal saisi de le faire, hein, de l'État membre, il faut démontrer qu'il y a eu une véritable acceptation au regard du faisceau d'indices qui peut exister.
Alors, on a vu le raisonnement de la Cour, on va s'intéresser aux conséquences pratiques. Concrètement, quelles sont ces conséquences ?
Alors, les conséquences pratiques, je vais être un peu provocateur, mais les conséquences pratiques, c'est est-ce que la distribution exclusive existe toujours en Europe aujourd'hui ?
Pourquoi ?
Premier élément, c'est que la conséquence du fait de ne plus être couvert par le règlement d'exemption, c'est-à-dire que si vous avez un accord de distribution exclusive et que vous n'êtes pas capable de prouver que tous les revendeurs ont acquiescé pour ne pas aller vendre les produits dans le territoire exclusif qui a été alloué, dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de l'exemption. Comme vous ne bénéficiez plus de l'exemption, vous avez dès lors un risque que votre accord soit nul. Il va falloir qu'au cas par cas, il y ait une exemption individuelle, ce qui arrive quand même assez rarement. Donc vous avez une fragilité de la clause, mais comme c'est toute la distribution sélective, voire de tout l'accord. Première conséquence grave. Comme je l'indiquais, on s'était interrogé sur le fait de pouvoir se baser sur l'absence de vente ou bien d'imaginer un système qui aurait été un peu moins problématique, qui était un système dans lequel, au fait, au cas par cas, le fournisseur aurait indiqué si c'était possible ou pas. C'est-à-dire que, en gros, c'était dire au distributeur, si vous voulez distribuer ailleurs que dans votre territoire, un distributeur exclusif, hein, c'est un simple acheteur, dites-le-moi et je vous dirai s'il y a une exclusivité
D'accord.
ou pas. La Cour nous dit non. La Cour dit, comme il faut un accord, La validité de l'accord ne jouera évidemment que pour l'avenir et pas pour le passé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si dans votre système, vous avez établi une distribution exclusive, vous n'avez pas obtenu l'accord de tous les revendeurs susceptibles de revendre les produits. À partir de là, vous créez une fragilité à l'égard de votre distributeur exclusif et cette fragilité fait que votre distribution exclusive n'est malheureusement plus justifiée. Et D'accord. donc, que ça fragilise complètement tout l'accord, ce qui signifie un certain nombre de conséquences. La première, c'est que donc, dès que vous entrez en relation avec un revendeur, il faut, en tant que fournisseur, informer sur l'existence des territoires exclusifs et interdire les reventes actives dans ces territoires exclusifs, ce qui est assez complexe.
On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Michel Ponsard. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez UGGC Avocats, également président de l'Association française d'études de la concurrence.
Merci, c'était un plaisir.
C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Bismarck for Change.